C'est une série d'émissions un peu particulières que nous vous proposons ce mois-ci dans Psy Espie, puisque le père Jean-François Noël, prêtre du diocèse d'Aix-et-Arles, les psychologues, répondra aux questions que se posent les auditeurs. Et on démarre tout de suite avec une première série de questions.
Psy Espie avec le père Jean-François Noël, dialogue RCF.
Bonjour Père Jean-François Noël.
Bonjour Sophie.
Alors aujourd'hui, place aux questions des auditeurs. Elles ont été très variées, beaucoup de curiosités liées à la combinaison de votre fonction de prêtre et de psy, et également les liens subtils entre foi, psychologie, également beaucoup de questions sur des situations de vie plus personnelles que tout un chacun traverse au cours de sa vie. Alors la première question est de Marie. Marie qui se demande: qu'est-ce qui est d'ordre psychologique et d'ordre spirituel dans la dépression ?
Oui, parce qu'on pourrait après demander, parce que toujours, c'est toujours un peu la question tranchante, comme si on pouvait passer un fil exact entre le psychique et le spirituel. Mais à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, quand vous vous sentez fatigué, quand votre corps vous lâche, quand vous n'arrivez pas à dormir, que donc c'est somatique, quelle est la place entre le somatique et le psychique ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut bien comprendre que les trois sont intimement liés. Il y a des maladies proprement somatiques, mais elles ont un écho sur le plan psychique. On vous dit que vous avez une tumeur, psychiquement vous pouvez être déprimé, je veux dire. Et puis après, sur le plan spirituel, vous pouvez ou non rebondir en demandant à Dieu de vous aider. Je veux dire, arrêtons de saucissonner, c'est ça qui est d'ailleurs un peu mon leitmotiv personnel, c'est ce que j'essaye de faire dans les formations que je propose, c'est de cesser le saucissonnage qui a été un peu... La pensée un peu habituelle, c'est-à-dire...
Qu'est-ce que vous appelez exactement le saucissonnage ?
C'est-à-dire que c'est vrai que maintenant, ça commence un peu à être réfléchi, mais avant, les gens qui avaient une maladie somatique, ils allaient consulter tel médecin, tel spécialiste pour tel organe. On voit bien que l'aspect psychique dans l'accueil des souffrants fait partie de la guérison. OK, de ce deuxième élément. Maintenant, il y a un troisième élément tout à fait nouveau, enfin... que moi je découvre, mais qui a bien commencé avant moi, c'est que même dans les entreprises, à l'hôpital évidemment, mais l'entreprise, le côté spirituel, enfin la dimension spirituelle ne peut pas être évidée, voilà. Et c'est pas forcément encore religieux. Quand je vois, et je le vis un peu... Vous savez que j'anime, enfin vous savez pas, j'anime et j'organise un diplôme psychologique qui s'appelle psychologie et religion.
Oui, je crois que je le savais, oui.
Je crois que vous le saviez, que j'en ai déjà parlé. Et j'ai fait venir, un peu à mon corps défendant, parce que j'étais assez méprisant, disons, comme psychanalyste, des coachs spirituels. Bon, pour moi, c'était vraiment la dernière roue de la charrette, je dois le confesser.
C'est vrai, c'est étonnant pour un prêtre, parce que vous avez casquette.
Tout à fait. Je considérais à tort, parce que bon, j'ai rencontré des grands, j'ai dialogué avec Vincent Lénart, qui est quand même le grand responsable du coaching spirituel en France, formé par des gens que dire qui sont pas du tout de mon domaine, parce que les psychanalystes, on est aussi un peu en un clos, voilà, un peu centré sur soi, comme beaucoup de professions, hein, comme aussi pas mal dans l'Église. Bon, et en fait, en les écoutant, je me suis aperçu que la demande explose dans la vie professionnelle de demande de sens de leur vie, et que des grandes entreprises qui réfléchissent pas uniquement au bien-être de leurs salariés, s'aperçoivent qu'une demande de sens spirituel favorise le bien-être, donc l'efficacité du salarié.
Mais alors, ça va être abordé comment dans une société laïque ?
Des grands pontes, comme je pense à...
Par exemple, vous parlez de coach spirituel, qu'est-ce que c'est un coach spirituel ?
Attendez, on y allons, je ne sais pas si c'est la réponse à la question de la dame, mais...
On va quand même lui répondre à Marie.
Oui, on va quand même lui répondre. Il s'avère que, de fait, moi je pensais que c'était... Je vais vous dire ce que je pensais. C'est que je pensais qu'il y a, de fait... un besoin spirituel irréductible dans l'homme, on en a parlé mille fois dans nos réunions. Et que quand ce besoin spirituel n'est pas accueilli par une religion, il s'évapore en ésotérisme qui peuvent être, un peu, j'allais dire, évaporant, voilà, pour le dire en un mot gentil.
Et la magie.
Les
good vibes.
Voilà, comme on voit avec certaines pubs, il faut respirer, vivre, embrasser les arbres, tout. Bon, je crois que les arbres, ils se passent bien de nos baisers. Bon, enfin, moi, ça, c'est notre problème. Après, c'est ce retour à la nature qui est un peu spécial. Bon. Donc, il y avait un ésotérisme un peu vague, ce qu'on appelait. Bon. Et en fait, il y a ça. Mais il y a, de fait, un besoin spirituel chez l'homme qui ne trouve pas toujours dans les religions un accueil à leurs besoins spirituels. Bon. Alors, écoutant après des coachs professionnels qui font des directeurs de management de grosses entreprises qui demandent à des coachs spirituels de réfléchir au sens donné au travail, au sens de l'existence.
Quand le coach spirituel permet...
Les managers, les directeurs font venir dans les entreprises des coachs spirituels qui font réfléchir les membres, les associés ou les salariés à la demande de sens de leur existence. C'est comme ça qu'on voit bien qu'actuellement, les épuisements, les burn-out viennent du perte de sens même de leur travail. Et que les gens demandent, alors il faut réfléchir à ça, plus qu'avant, un sens à leur vie professionnelle.
Alors, vous comprends bien, pour répondre à Marie qui se demande qu'est-ce qui est de l'ordre du psychologique, qu'est-ce qui est de l'ordre du spirituel, pas de saucissonnage, tout est un peu intimement lié.
Oui, c'est pour ça que il y a pas, je vais pas dire un matin, bah oui, c'est vrai, tiens, j'ai un ongle incarné. Vous allez me dire, ça c'est proprement somatique.
Ah bon?
Oui, d'accord. C'est dans le corps.
Oui,
enfin,
oui, oui.
Excuse-moi pour l'ongle incarné, mais enfin bon. Ou un rhume, voilà.
Oui.
Bon, prenons un rhume. Ben, un rhume, il est possible qu'il y ait une composante, de fait, mon corps est sensible au pollen, comme ma voix peut-être le trahit aujourd'hui, et que donc j'ai une allergie ou une rhinite un peu,
chronique,
comme on dit, mais peut-être aussi que la faiblesse de, je dors moins bien parce que j'ai d'autres soucis et que les choses se conjuguent à l'intérieur. Et que, par exemple, aussi, à mon âge, ma propre finitude vont me rendre plus sensible au pollen des arbres. Bon. Donc, c'est quand même assez compliqué, non pas de séparer le somatique, le psychique et le spirituel. Après, il faut savoir les traiter. Alors, c'est vrai que le médecin, votre médecin n'est pas forcément croyant et que ça l'indiffère que vous alliez ou non à la messe ou que vous apparteniez à une communauté chrétienne. Mais pour vous, à l'intérieur de votre propre corps et de votre âme et de votre esprit, les trois vont se conjuguer. Si vous avez, par la prière, par la présence de Dieu, la confiance que vous avez en Dieu qui se tient à côté de vous dans votre épreuve de santé peut vous aider à guérir. C'est ça le sens.
Alors ça rejoint la deuxième question que se posait Marie, parce qu'elle avait une deuxième question en lien avec la première. Elle demandait, est-ce que c'est possible de guérir les maux spirituels par le psychologique?
Je comprends pas, c'est pour ça que j'ai déjà lu la question, je l'ai pas comprise.
C'est quoi
les maux spirituels? Est-ce qu'elle dit pas l'inverse? Parce que c'est quoi un mal spirituel?
Est-ce que l'un et l'autre peuvent se guérir?
Je comprendrais qu'elle dise, est-ce qu'on peut guérir un mal psychologique par la vie spirituelle? Vous opinez du chef parce que...
C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas moi qui ai posé la question, donc ouais. Je ne peux pas me mettre à la place de Marie, mais en gros, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des vases communicants entre le psychique et le spirituel? Voilà, on va dire.
Il y a des vases communicants.
Donc, quelque part, oui, mais peut-être qu'il faut approfondir.
Après, ouais. on peut être guéri spirituellement sans être guéri psychiquement. Il y a des fous, entre guillemets, parce que j'aime pas ce terme, mais disons, employons-le, qui ont été des grands spirituels. Moi, j'ai accompagné une jeune femme en schizophrène, qui est une maladie très grave et très douloureuse, qui a vu une vie spirituelle authentique. Qui avait vraiment une vie spirituelle authentique. Qui m'avait beaucoup, beaucoup étonné. À côté, elle souffrait de cette dissociation intérieure. Et que sa vie spirituelle n'a pas guéri sa schizophrénie. Je crois qu'on a du mal à prendre en compte. C'est accru, parce que quand on a mal à la jambe, on va voir un homme, un médecin ou un docteur ou une doctoresse qui soigne les jambes. On n'a pas hésité. Je veux dire, quand vous avez, je sais bien que dans le temps, on pouvait raconter des histoires sordides d'une sœur qui disait à sa mère supérieure, ma mère, j'ai mal au ventre, et que l'autre répondait, réciter une chapelet, ça ira mieux après, alors qu'elle avait peut-être des règles douloureuses et que ça se soigne, les règles douloureuses, ou que le rhume se soigne. On se passera pas de médicaments. Enfin, en tout cas, en Europe, oui. Quand on en a, on va pas aller chez le prêtre sacrifier un coq, alors qu'on pourrait acheter du Doliprane à la pharmacie à côté. Enfin,
il faut prendre en compte notre dimension bien incarnée, si je vous rejoins bien.
Incarnée, psychologique et spirituelle.
Physique, et physique aussi.
Somatique, c'est physique.
Oui.
Soma, c'est le corps, voilà, pour le dire.
Merci pour cette précision sémantique. Alors, je vous propose maintenant d'écouter un homme, Christophe, qui a une question plus particulièrement pour vous.
En quoi votre foi est-elle un outil supplémentaire dans la boîte à outils du psy?
Rapide, efficace.
Je ne sais pas si c'est un outil pour le... Bon, les patients qui me voient savent que je suis et chrétien et prêtre, parce que je ne m'en suis jamais caché, que maintenant, c'est de notoriété, voilà. Ceci dit, pour répondre à une question aussi qui n'est pas forcément venue là, mais j'ai eu d'autres patients d'autres confessions musulmanes, juives ou voire de sagesse orientale. Alors, tous pensaient que ma propre référence intérieure à ma vie de croyant pouvait m'aider à ce qu'eux, ils la prennent en compte, que je respecte cette dimension-là. D'accord ? Bon. Donc, c'est vrai que c'est les points, vous savez, le point focal, deux points de focal pour délimiter la lumière. Donc, le point focal de ma vie intérieure rallume leur confiance à leur propre point focal. C'est pas moi qui dis ça, d'ailleurs, je viens de le lire chez un psychanalyste qui s'appelle Viktor Frankl, qui était un rescapé des camps d'Auschwitz, qui a rencontré Freud, puis ensuite s'en est éloigné, qui a rencontré Adler et s'en est éloigné. Mais on fera une émission sur Viktor Frankl, parce que c'est vraiment très intéressant, qui n'était pas croyant, et qui a quand même vécu 3 ans dans les camps à Auschwitz, hein, qui en est survivant, et qui a fondé la logothérapie. Je raconte ça parce que lui, il défend que la vie intérieure du thérapeute est un argument pour que l'autre trouve sa propre vie intérieure. Entre autres, pas que. Quand j'ai commencé à devenir psy, c'est après mon sacerdoce, je ne savais pas ça. Ça a servi peut-être à beaucoup de gens qui, sans en faire référence explicitement, sachant que j'étais croyant, peut-être se sont appuyés dessus, sans me le dire. D'autres, même parfois, s'en sont servis contre. Ah ben, parce que vous êtes croyant, vous ne pouvez pas... Parce que souvent, je trouvais quand même que, chez certains patients, il y avait une maladie dans la croyance. Et que parfois, il fallait interroger cette croyance. Qui les ouvrait à une position un peu douloureuse, ou de croyance en toute puissance de Dieu qui ne marchait pas. Et donc, en fait, ils en voulaient à Dieu, par exemple. Je me rappelle très bien avoir dit ça à une catholique un peu classique, disons. En fait, vous voulez pas... Enfin, je n'ai pas dit ça comme ça, mais je l'ai amené à ce qu'elle me dise, au fond, qu'elle en voulait à Dieu. Parce qu'il y avait eu un deuil douloureux dans ça. Et elle me dit, mais on ne peut pas dire ça. Ben, j'ai dit, si, mais vous le pensez. Non seulement, on peut pas, peut-être on peut le dire, mais vous le vivez et ça se retourne contre vous en ressentiment. Et au fond, vous en voulez à Dieu. Et c'est d'ailleurs, je lui ai montré que dans le livre de Job, c'est déjà inscrit. On a le droit d'en vouloir à Dieu. Donc parfois, les gens s'appuient sur ce qui suppose de ma vie de croyant, ou parfois s'en servent comme bouclier pour ne pas interroger la leur.
Là, c'est plus embêtant. Alors, c'est tout.
Je suis là pour ça.
Alors, c'est tout pour les questions d'aujourd'hui, mais on en pose la semaine prochaine. Hein. Il y en a d'autres.
Merci. Je suis rassuré.
Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour vos éclairages à la fois en tant que prêtre et psychanalyste. Alors, vous pouvez retrouver cette émission en réécoute sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et comme on le disait, donc, on poursuit cet échange avec les auditeurs la semaine prochaine. Et vous pouvez d'ailleurs envoyer toutes vos questions et vos réactions à l'adresse dialoguerf.fr. Rendez-vous mercredi prochain à 11h.
Psy et Spi avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.